France a venu dans les grands festivals de l'été les titres de son tout nouvel album.
Raphaël Saadic, en avant-première sur France Inter. Un événement à suivre demain à partir de 20h.
France Inter présente Sweeney Todd au Théâtre du Châtelet du 22 avril au 21 mai. Après A Little Night Music, le Châtelet présente l'autre grande comédie musicale de Stephen Sondheim, Sweeney Todd ou le diabolique barbier de Fleet Street. Un vrai thriller musical aussi hilarant qu'inquiétant. Retrouvez Sweeney Todd dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter, la différence.
15h04 sur Inter, c'est l'heure de Là-bas si j'y suis, et c'est avec Daniel Mermet.
Jean-Charles Naouri a un QI 25 fois supérieur au nôtre, nous dit Alain Minc. Waouh ! Sachant que le QI le plus haut jamais mesuré est environ 230, ça nous met le QI de M. Minc à 9, soit le QI d'une huître.
Je voulais attendre un peu pour réagir, parce que là, j'ai pas trop le temps, mais là, c'est plus fort que moi. Je réagis à chaud après avoir entendu le troisième volet de ce reportage sur l'Assemblée Générale de Casino du 29 avril 2010. C'est un reportage qui est magnifique. C'est magnifique parce que ça montre bien comment ça fonctionne. Il y a une phrase de Frédéric Lordon qui m'a particulièrement frappé, qui était, à propos de Jean-Charles Naouri, un homme qui résume à lui tout seul la trajectoire de l'élite française. Et ça montre bien que c'est tout un système qui fonctionne mal. Ce qui se passe à Casino, c'est pas seulement à Casino. C'est comme ça qu'est mené l'ensemble de la politique dans les affaires qui occupent actuellement l'actualité, que ce soit le nucléaire, que ce soit les relations de la France avec l'Afrique. Ça fonctionne comme ça. Voilà des gens qui ont le QI exceptionnel. Le QI, c'est simplement être un quotient qui permet de mesurer les futurs plus gros escrocs. Et ça doit être celui de Juppé aussi, je pense. Voilà, ce sont des gens qui fonctionnent comme ça. Je me demande d'ailleurs parfois si c'est du cynisme ou simplement une espèce de conditionnement tout à fait inconscient. Les gens, ils ont abordé la société comme ça. Il faut réussir coûte que coûte. Donc on est d'autant plus sensible à la formule de cet homme qui avait du mal à s'exprimer à la fin, qui était au bord des larmes et qui a dit on est axé sur la valeur de son action et puis on oublie tout le reste, quoi, toute la détresse humaine. Et ça, c'est impressionnant.
Salut Daniel, c'était Nathalie de Corbigny. Je t'avais contacté il y a plusieurs semaines concernant cette menace de fermeture de deux postes, un en primaire et un en maternelle pour cette petite ville de Corbigny. Donc le résultat, c'est les deux postes menacés de fermeture dans nos écoles sont désormais officiellement sauvés. L'action engagée par l'Association des parents d'élèves indépendants a largement contribué à ce résultat. Les équipes d'enseignants remercient tous ceux et celles d'entre nous qui se sont mobilisés dans la durée, avec abnégation, dans le respect maximum des apprentissages des élèves, pour que nous conservions les moyens nécessaires à la réussite de notre mission de service public. Alors évidemment, c'est une petite bataille qui a été gagnée. Je pense que c'est pas terminé parce que malheureusement, je pense que l'année prochaine, il faudra recommencer. Pour nous, ça a fonctionné, mais un petit peu partout en France, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc je pense qu'il faut garder le cap et il faut être vigilant. Voilà, merci et bon courage à tous ceux qui se battent encore et à bientôt. Salut Daniel.
Bonjour. On est en train de bloquer, ou plutôt d'ouvrir les barrières du péage. Ils veulent fermer sans nous prévenir, l'école de Rambou, ils nous l'imposent, sans concertation. Et nous, sans concertation, on est venu ouvrir les barrières. Tous ceux qui ont les écoles qui ferment doivent se mobiliser. Ça se fera pas tout seul si vous voulez les garder ouvertes. Et surtout, ne lâchez rien.
Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. C'est pour annoncer donc un rassemblement le 19 avril à 18h à Gien sur le pont de Loire pour exprimer notre soutien au peuple japonais et pour exiger un référendum sur le nucléaire en France. Venez nombreux.
Merci pour tous ces messages qui me parviennent ici à Tokyo, au Japon, où les nouvelles sont un peu bizarres quand même. puisqu'on apprend qu'il faudra entre 6 et 9 mois pour reprendre le contrôle de la centrale de Fukushima. 6 à 9 mois, d'ici là, bon, c'est pas très bien, on sait rien. Mais on espère qu'on reprendra le contrôle de cette centrale. Les Japonais commencent quand même à s'inquiéter malgré une certaine désinformation, une euphémisation de l'information concernant le nucléaire chez eux. Il se pourrait bien que le Japon s'éveille. C'est possible, en tous les cas, beaucoup l'espèrent et le croient dans ce pays, dont le docteur Shuntaro. Le docteur Shuntaro, il a 94 ans. Il était médecin à Hiroshima, médecin militaire. Il avait alors 28 ans. Et il en a vu des vertes et des pas mûres et d'horribles surtout. Il a soigné beaucoup de monde à l'époque. Mais il a soigné aussi les survivants. Pendant 60 ans, plus de 60 ans, il a soigné les Hibakusha, les survivants d'Hiroshima, avec leur cancer, leurs séquelles, leurs souffrances. Eux, leurs enfants et parfois même leurs petits-enfants. Et quelle est la conclusion du docteur Shuntaro, 94 ans? C'est un peu le Stéphane Hessel japonais. Non au nucléaire. Civil comme militaire. Voilà. Le Japon s'éveille peut-être à ces graves questions. En attendant qu'on vous raconte ça dans le détail, on va revenir en arrière et retrouver 2 800 000 pigeons. 2 800 000 pigeons. Ça vous dit quelque chose? Non? Eh bien, restez avec nous jusqu'à 16 heures. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, bonjour les AMG. C'est Gisèle de Montargis. Je voudrais répondre aux communautaristes juifs là, qui déclarent qu'il n'y a pas de session d'examen le dimanche en France sous prétexte qu'elle est catholique. Il ferait bien de se renseigner sur l'enseignement public avant de parler. Je suis un exemple vivant du contraire. J'ai passé l'oral du concours du CAPES à Paris un dimanche 13 juillet près d'une caserne où la troupe s'entraînait musicalement pour le défilé du lendemain. Le président de la République n'avait pas jugé bon de leur dire de respecter notre concentration stressée. Je suis athée, j'ai eu mon CAPES, donc Dieu s'en fout. Ou alors il est laïque, comme l'école de la République, gratuite, laïque, obligatoire. Et comme on dit aux Antilles, coucou à nos amis, affaire cabri, pas affaire mouton. Au revoir.
Quand le progrès est atteint, quand la démocratie est à son terme, bah, y a plus qu'à fonder des musées.
Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Des nouvelles de Fessenheim. Arrêtez Fessenheim tout de suite, ou comme disent les Allemands, abschalten jetzt. Donc suite à la manifestation de dimanche dernier, il y a Stop Fessenheim qui organise de nouvelles manifestations le lundi de Pâques. Donc les associations de trois pays envisagent de bloquer tous les ponts sur le Rhin entre 12h05 et 12h35 le lundi de Pâques, le 25 avril, qui est également la date anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. Il y a aussi une initiative de 6 personnes qui vont pour l'instant entamer un jeûne illimité à Colmar le 18 avril au foyer Théodore Monod. Donc chacun peut y participer, même à domicile, en s'inscrivant sur le site de Stop Fessenheim. A bientôt, au revoir.
Dans le cas présent, j'ai été trompé. Et c'est un terme que je mets bien au-dessus que voler.
On vous a fait fermer votre livret.
C'est ça. Pour Natixis, oui. C'est bien ça, hein. Ça, c'est ce qui s'appelle faire des affaires, oui.
Je vais donner des conseils financiers. C'est du conseil financier négatif, parce que le conseil positif, je suis incapable d'en donner, mais... conseil financier négatif, ce serait n'achetez pas des actions. N'achetez pas des actions.
Moi, j'avais délégué mon pouvoir de surveillance au responsable de la caisse d'épargne.
Il fallait que chacun de nos clients ressorte avec des actions Natixis.
N'achetez pas des actions. N'achetez pas des actions.
35 à 40 000 euros, à peu près.
Par rapport à votre épargne, ça représentait...
C'était 100%. Tout, 100%. J'ai fait un prêt revolving pour acheter.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry, 2 800 000 pigeons.
Flight number 2, arriving from New York.
Bravo, tous ensemble, vous avez su vous mobiliser pour réussir l'opération de marché de Natixis.
Sophie,
plus d'un million de nos clients et sociétaires ont choisi de devenir actionnaires de notre filiale commune avec les banques populaires.
Conseillère financière chez Natixis.
Un résultat qui peut susciter une légitime fierté chez chacun de vous. Cette performance est à la hauteur des ambitions que nous plaçons dans Natixis. En moins d'une année, nous avons ainsi franchi avec brio une étape déterminante dans l'histoire, déjà riche en aventures, des caisses d'épargne. Outil de collecte populaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les caisses d'épargne ont acquis en quelques années une dimension pleine et entière d'établissements bancaires et d'acteurs reconnus sur le marché européen. Quelle trajectoire ! Vous avez démontré votre capacité à vous surpasser dans les grands moments, comme des sportifs de haut niveau. Dès aujourd'hui, d'autres défis nous attendent. Ensemble, il nous appartient de les relever. Bonne année 2007 à vous et à vos proches. Voilà, c'était une déclaration du président du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne, Charles Millot.
Vous avez des projets ? Vous voulez le bonheur des vôtres ? De vos enfants, de vos petits-enfants, de vos arrière-petits-enfants. Nous aussi, nous sommes avec vous. Nous vous accompagnons. Une seule condition, filez-nous votre pognon et tirez-vous, pigeon, signé Natixis. Et voilà, 2 800 000 pigeons ont confié leur noisette à Natixis. En étant sûr que ça ferait des petits. Soyez sans inquiétude, c'est un placement sûr, aussi sûr que le livret A, sauf que ça vous rapportera beaucoup plus. Bon, ben, si vous le dites, elle a dit, la petite dame, cliente de la caisse d'épargne, titulaire d'un livret A, et puis elle a oublié. Mais le lendemain, sa conseillère l'a rappelé, le samedi, le dimanche, le soir... Elle l'a rappelé, la petite dame cliente de la caisse d'épargne et titulaire d'un livret A. Oui, ils n'ont pas ménagé leur peine chez Natixis. Il faut dire que les conseillers financiers touchaient de confortables primes pour chaque paquet d'actions placées. Dans les agences, des jeux de rôle avaient été organisés pour répéter l'argumentaire. Dans 6 mois, Natixis figurera parmi les 15 plus grosses capitalisations boursières françaises. Et dans 3 ans, l'action vaudra 40 euros. Alors, la petite dame, cliente de la caisse d'épargne et titulaire d'un livret A, a fini par accepter. Elle a fait ce que lui disait sa conseillère en se disant que ça rapporterait et que ça ferait de jolis cadeaux aux petits-enfants. Et puis d'abord un coup de pouce aux enfants qui sont au chômage. 10 000 euros, elle a donné, 10 000 euros d'économie. Aujourd'hui, il reste à peine 200 euros. 2 800 000 pigeons. L'opération a rapporté 5,5 milliards d'euros à Natixis. Mais entre 2006 et 2008, les actionnaires ont perdu 92% de leurs titres. 19,55 euros en novembre 2006 et 1,50 € en 2008.
Natixis est la fusion, la filiale de la Caisse d'épargne et de la Banque Populaire. Caisse d'épargne, Banque Populaire, ça fait pépère, ça fait... C'est pas des banques de spéculateurs, c'est là où on met son argent, histoire que les souris vous le mangent pas. Voilà cette histoire. Mais c'est pas la seule, il y a d'autres histoires... récente, ça se multiplie même ces histoires-là. Souvenez-vous de des actions EDF en 2005. Là aussi, avec des bonnes primes, des bonnes carottes, les conseillers bancaires avaient déployé tous leurs ailes. Si bien qu'après enquête, le régulateur boursier, l'autorité des marchés financiers, a infligé en novembre 2008 à la BNP Paribas et à la Société Générale un avertissement et une amende de 500 000 euros, comme ça, en passant une petite brimade, un petit coup sur les doigts. Voilà ce que nous allons évoquer aujourd'hui. On se demande, mais qui finalement lutte véritablement contre le capitalisme, hormis Nicolas Sarkozy, qui est l'adversaire le plus farouche du capitalisme? Celui qui vraiment a été le plus efficace dans l'époque récente, c'est un certain Bernard Madoff. Ah oui, 50 milliards de dollars, il l'aura pris au capitaliste. À lui tout seul. Dont au passage d'ailleurs 614 millions à Natixis. Oui, Natixis avait placé les petites noisettes de la vieille dame. Et chez Madoff, 614 millions. Natixis a perdu au passage. Mais enfin, voilà, ce Madoff a fait perdre 50 milliards à ces hardis capitalistes et leur cupidité. Imaginez un deuxième Madoff, 10, 100, 1000 Madoff. Imaginez, encore mieux, des Madoff qui redistribueraient des Robins des Bois Madoff. Pas mal, non? On peut rêver. On peut rêver. En tout cas, les 2 800 000 pigeons ne rêvent plus beaucoup et sont là au milieu de leurs plumes épars, hagards, et ils sont avec nous jusqu'à 16 heures dans la base où j'y suis.
Quand on est tout blasé, quand on a tout usé, le vin, l'amour, les cartes, quand on a perdu le vice des bisques, des crevisses, des rillettes, de la Sarthe, quand la vue d'un striptease vous fait dire quelle bêtise, vont-ils trouver autre chose? Il reste encore un truc qui n'est jamais caduque pour voir la vie en rose. Une bonne paire de claques dans la gueule, un bon coup de savate
oule
dans les fesses, un marron sur les mandibules,
oh,
ça vous fait une deuxième jeunesse. Une bonne paire de claques,
aïe aïe,
dans la gueule, indirect au creux de l'estomac, les orteils coincés sous une meule, un coup de latte en plein taille. Ça enterre tout, la drogue et l'aspirine, les épinards, la schnouf et la badoie. C'est bien plus bad que le foie noir en terrine, car c'est moins cher et ça n'alourdit pas. Une bonne paire de claques,
oula,
dans la gueule, et la vie reprend tout son prix. Chaque matin, quand on se sent seul, claquons-nous la gueule entre amis.
Là, c'est quoi?
Toute la partie bas.
Ah oui.
C'est inhabitable?
Ça, c'est la cour. Ah, c'est une terrasse.
En fait, ici, c'est la terrasse. Et ici, on va dire, c'est la maison. La maison qu'on est en train de construire.
Ici, j'avais envisagé pour refaire tout ça. La cour, refaire les chambres qui sont là.
pour qu'on puisse venir habiter là, parce qu'avec la petite, le haut, c'est trop petit maintenant.
Là, il y a tous les blocs de ciment, il y a les gravats.
Il y a les gravats, il y a les parpaings, il y a tout ça à remonter. C'est faisable, mais bon. Maintenant, je suis bloqué financièrement, donc je ne peux rien faire. À cause, à cause des titres d'Antixis.
Voilà, il y a ceux qui trinquent et ceux qui raflent. Là, on est, vous avez compris, chez ceux qui trinquent. C'est Eric et Rosanna, c'est quelque part en Seine-Saint-Denis, ils ont la quarantaine, la bonne quarantaine. Ils ont une fillette de 9 ans. Et lui, Eric, écoutez bien, il était délégué syndical CFDT, où ça ? Chez Natixis. Ah oui, chez Natixis. Et ben, il n'a pas résisté aux appels de la commercialisation des actions de Natixis et il a mis son épargne là-dedans. Il a placé ses cacahuètes dans Natixis à hauteur de 40 000 euros. Eric et Rosanna.
J'ai été amené à prendre les actions Natixis parce que, à l'ouverture de l'achat, l'action avait bien progressé, ça marchait très 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 bien. On atteignait au niveau de cette progression 5% quand même, c'était très intéressant. 5% du coupon, c'était quand même pas mal. Et donc je me suis dit, bon, mais c'est quand même ma banque, je travaillais dur, mes collègues travaillaient dur, je me suis dit, bon, avec le fruit de notre travail, on réussirait. Ben, finalement, bon, mais il y avait autre chose.
Alors parce que vous travaillez chez Natixis.
Oui. À l'époque, je travaillais chez Natixis et puis bon.
Vous faisiez quoi chez Natixis ?
J'étais syndicaliste et employé de banque. J'ai tout mis dessus, j'ai tout misé et puis finalement, j'ai tout perdu aujourd'hui. Ça, on ne s'y attendait pas à cette histoire de subprime. Et...
Vous aviez placé combien ? Vous aviez acheté combien de titres ?
Au départ, 900 titres à 19. Et après, bon, mais avec l'augmentation de capital, c'est ça ? J'ai acheté combien encore ? C'est un supplément ?
On arrive à 1900 titres aujourd'hui.
On arrive à 1900 titres aujourd'hui.
Ce qui représente combien ?
35 à 40 000 euros, à peu près.
Et par rapport à votre épargne, ça représentait une grosse partie de votre épargne ?
C'était 100%. Tout, 100%. C'était 100% de notre épargne, plus au niveau de l'épargne salariale. On a écouté les dirigeants de chez nous, qui nous a franchement mis en confiance à 100%, et puis on a remis ce qu'on avait au sein de la banque, même sous Natixis. Et donc, c'est du 100%, ça fait du 100%. On ne peut pas mieux dire, on ne peut pas dire au moins, on mentirait. C'est du 100%. J'ai fait un prêt revolving pour acheter. Un prêt revolving. Alors, je remets encore une couche. Le malheur s'est acharné de part et d'autre sur nous, et puis on se retrouve sur la paille.
Pourquoi pas avoir mis l'argent sur un livret classique ?
Bon, un livret classique du 4%, bon, c'était pas dans l'état d'esprit de l'époque. C'était bien plus, puisqu'étant habitué à plus. Donc, d'une moyenne d'une dizaine de pourcents le titre, c'était quand même alléchant.
Mais pourtant, enfin, les actions, on sait que ça monte, ça peut descendre. Comment vous avez pu croire que vous ne pouviez pas perdre ?
Oui, ben à ce niveau-là, on fait confiance à une banque ou on ne fait pas confiance à une banque. Quand on place de l'argent sur une banque, on ne peut pas penser qu'une banque peut arriver à ce niveau-là. À ce niveau, c'est vraiment la décadence. Puis aussi, il faut dire une chose. Au départ, quand il a commencé à y avoir des pertes, on nous a dit que c'est simplement un produit pollué. On s'y attendait pas que c'était tout un système qui se produisait à la banque Lehman Brothers et que Natixis était à 100% avec. On ne savait rien du tout de tout ça. Dans 10 ans, on n'atteindra jamais 19 euros. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse encore pour que ça fasse 19 euros ? Recommencer le business avec Lehman Brothers qui est crevé aujourd'hui. Il faudrait recommencer le même système pour atteindre ce but-là. Et là, ça m'étonnerait que quel que soit le gouvernement, il laisserait les banques faire ça. La provenance, c'est qu'Obama fait tout aujourd'hui pour ne pas que ça se renouvelle.
C'est pas honnête, donc la moindre des choses, c'est de retrouver au moins son investissement. Parce que bon, perdre autant, c'est affolant. C'est une énorme somme. Donc, c'est vrai que s'associer pour porter plainte, je trouve que c'est bien. Au moins, c'est fait de façon publique et au moins, là, tout le monde sait que bon, Natixi n'a pas été honnête. Ils se sont bien servis de notre argent. Maintenant, bon, bah, nous, on a tout perdu. On veut récupérer ce qu'on a investi. C'est tout.
On ne lâchera pas. C'est simple, on ne lâchera pas.
Derrière chaque projet, il y a des hommes et des femmes qui bâtissent, qui façonnent, qui créent, qui planifient. Et derrière toutes ces énergies, il y a des hommes et des femmes qui trouvent des solutions financières pour que ces projets puissent exister. Ce sont les experts de Natixis. Natixis, la banque d'investissement et de projets.
Bientôt, vous pourrez en devenir actionnaire.
Alors, je suis Guillaume Maujean, journaliste aux Échos, et je suis chargé de suivre le secteur bancaire. Alors, Natixis, c'est d'abord l'histoire d'une fusion entre deux activités de banque de financement et d'investissement, donc la banque qui est tournée vers les marchés. Donc, Ixis, d'un côté, qui appartenait aux caisses d'épargne, a fusionné avec Natixis, qui appartenait à la Banque Populaire, en 2006, pour créer Natixis. Ils ont mis en bourse une partie de Natixis et pour cela, ils ont voulu faire un grand placement populaire. Donc, ils ont fait appel aux épargnants et notamment aux clients des caisses d'épargne et des banques populaires. Ils ont même plutôt réussi puisqu'ils ont donc attiré quasiment 3 millions de personnes qui ont souscrit l'opération. De mémoire, c'est un peu moins de 6 milliards d'euros qui ont été placés sur les marchés là-dessus. C'était un déplacement comme celui de Gaz de France, par exemple, donc très populaire. Et pour cela, effectivement, ils ont vendu aux épargnants l'action Natixis comme un placement peu risqué, comme un placement assez sûr, en disant que l'action atteindrait très vite les 40 euros, sans forcément présenter les aspects négatifs de la banque de financement et d'investissement, qui est un métier assez peu compris du grand public. Et effectivement, ils ont négligé la présentation des risques que comportaient ces activités. La fusion a donc lieu en 2006, le placement a lieu fin 2006. Et début 2007, c'est là qu'on va s'apercevoir que la crise financière va toucher les banques, en particulier les banques de financement et d'investissement. Natixis va progressivement énormément souffrir, va voir son cours de bourse s'effondrer. On est descendu de 20 euros à 12, 6, puis 1 euro au plus bas il y a exactement un an, début 2009. Et là, le cours en ce moment tourne autour de 3,50 euros, 3,70 euros. Et donc, les épargnants vont être lésés par cette introduction en bourse. C'est-à-dire qu'ils sont toujours coincés avec leurs 19,55 euros de prix de départ et l'action ne retrouvera évidemment jamais ces niveaux-là. Je crois que la situation a radicalement changé. Natixis n'a plus du tout les mêmes ambitions que par le passé. Elle a dû réduire la voilure, notamment les activités de marché les plus risquées qu'elle a décidé de ne plus faire. Et donc la nouvelle direction a décidé de recentrer Natixis sur ce qu'elle savait faire de mieux, de plus simple, qui sont des activités pas forcément les plus risquées, pas forcément tournées vers les marchés, mais du coup des activités qui rapportent moins. Et donc le cours n'a quasiment aucune chance de retrouver les 19,55 € auxquels il avait été vendu aux épargnants. Alors Natixis va un peu mieux aujourd'hui, alors ils restent assez handicapés par le poids de leurs actifs toxiques. On les estime aujourd'hui à 30 milliards d'euros. Ce qui est certain, c'est qu'il faut suivre de très près l'évolution de ce portefeuille, qui reste très important et qui peut donner lieu encore à de nouvelles dépréciations.
Pas facile de s'enrichir hein, de cette façon-là. Quand on est un petit personnage moyen, comme vous et moi, c'est pas facile, facile. Voilà le témoignage d'un autre pigeon, Monsieur Henri B. Il vit dans le sud de la France. Il est retraité, il travaillait dans l'hôtellerie et il avait placé 3000 euros en actions Natixis.
Qu'est-ce qui vous a amené à prendre des actions Natixis ?
Bien, la confiance que j'accordais à l'établissement, la caisse d'épargne, hein, et l'encouragement qui m'était fait par les responsables de l'opération dans l'établissement. Mais avant de parler de ce qui m'est arrivé, j'aimerais resituer les choses. La caisse d'épargne n'était pas un établissement bancaire ordinaire. Je suis d'une famille modeste, comme beaucoup de clients, je pense, de la caisse d'épargne. Et chez mes parents, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et quand il y en avait, il allait directement sur le livret, non pas d'épargne, mais le livret de la Caisse d'épargne, sous-entendu de la Caisse d'épargne de France. Et donc, c'était tout naturel que je fasse confiance à la Caisse d'épargne et que je prenne le produit qu'on me proposait. Je n'ai pas de grandes connaissances dans les produits boursiers.
Et dans cette affaire, vous aviez placé combien de...
Eh bien, j'ai les chiffres qui doivent être là. J'en ai pris pour 3108,45 €. Hein, j'étais, avec dérision, je souligne, un client privilégié de la Caisse d'épargne, dont j'en ai eu beaucoup. Quand on a entraîné dans ce genre de spirale, les gens comme moi, et puis les gens, je pense que je rencontre dans le hall de la Caisse d'épargne, mais ils ne réagissent pas. Parce qu'ils se tournent vers à nouveau leurs conseillers, qui ne savent pas quoi leur dire, hein, et qui disent, on fait le dos rond. Voilà ce qu'on dit à des gens comme nous. Hein, on ne casse pas tout, on se dit, on va attendre, ça repartira. Voyez.
Aujourd'hui, vous vous estimez trompé, volé par votre banque?
Voler, non, alors que c'est un terme plus grave que tromper, mais dans le cas présent, j'ai été trompé. Et c'est un terme que je mets bien au-dessus que voler. Ça a été fait avec légalité. La Caisse d'épargne nous a mis entre les mains Natixis, hein, a confié ses clients à Natixis. Elle n'a pas surveillé Natixis. Moi, j'avais délégué mon pouvoir de surveillance au responsable de la Caisse d'épargne. Là, on est dans la manipulation financière, hein, et on est dans les Madofferies. Hein. Alors, bien sûr, c'est un produit de bourse, mais là, on a subi les chocs, disons, d'une forme de malhonnêteté. Hein. Pour ma part, je serais assez honteux de porter la responsabilité de ce genre de choses. Hein. Je vous le dis. Et je souhaite qu'on obtienne de cette banque qu'elle assume ses responsabilités, qu'elle reprennent ces titres à leur valeur d'émission. Ce que, je pense, les autorités doivent la contraindre à faire.
Vous-même, vous n'avez pas quitté la Caisse d'épargne?
Non. Non, parce que c'est compliqué de quitter sa banque. C'est compliqué. Voilà, alors, je n'ai pas quitté la Caisse d'épargne. Je pense que j'aurai le bon sens de résister à de nouvelles offres.
Frédéric Lordon, on n'a plus besoin de vous présenter à la BACI, j'y suis, mais est-ce que je peux quand même vous demander de vous présenter?
Alors, sur le papier, je suis économiste et je suis chercheur au CNRS. Alors, je dis sur le papier, je suis économiste parce que je fais un genre d'économie qui plaît de moins en moins à mes collègues économistes. C'est vraiment bizarre parce que je vais vraiment me payer un moment de contre-emploi. Hein. Je vais donner des conseils financiers. Bon, alors, c'est du conseil financier négatif parce que le conseil positif, je suis incapable d'en donner, mais mon conseil financier négatif, ça serait n'achetez pas des actions. N'achetez pas des actions, et pour deux raisons au moins. La première, c'est qu'il faut bien voir tout de même que l'épargne des épargnants investis dans les actions est le carburant par lequel on nourrit la machine financière qui opprime le salarié, c'est-à-dire à la fin des fins l'épargnant. Bon, donc il y a un effet de serpent qui se mord la queue, hein, ou de circulation circulaire de cette épargne qui est impressionnant et qu'il faut pas perdre de vue. Donc c'est un produit toxique. L'action est un produit toxique, mais pas au sens financier du terme. Non pas qu'elle ne puisse pas boire des bouillons monumentaux, mais je dirais c'est un produit financier politiquement toxique. Et ça me semble être une raison suffisante de l'éviter. Ajoutez à ça la deuxième raison, qui est que c'est un produit extraordinairement instable, avec lequel les possibilités de perte sont absolument omniprésentes. Et vous avez de bonnes raisons de vous tenir au loin de ce genre de produit. Donc, je veux dire, à la régulière, on peut tout perdre. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Alors, je sais bien, je veux dire, les banques en disent de moins en moins long sur les produits financiers qu'elles vendent. Il y a des petits épargnants qui ont bu la tasse avec Natixis et qui se sont laissés abuser par le crédit dont ils revêtaient a priori des institutions jusqu'ici aussi fiables que la Caisse d'épargne, les banques populaires, etc. Et qui ont cru les yeux fermés ce qu'on leur racontait. Non, mais c'est ça le pire dans cette affaire. Depuis que le capitalisme financiarisé est lancé, on assiste à un dévoiement actionnarial du principe mutualiste qui est simplement consternant. Je veux dire, ça fait vraiment de la peine. Le principe mutualiste, je veux dire, c'est pas non plus l'autogestion, faut pas exagérer, c'est pas le grand soir ou le monde nouveau. Mais enfin, c'était quand même une logique qui était significativement hétérogène à celle du capitalisme privé actionnarial. Donc c'était une enclave assez magnifique, mine de rien. Or, les entreprises mutualistes ont eu envie d'aller jouer dans la cour des grands, comme tout le monde. Elles ont eu envie de prendre part au grand jeu de la mondialisation, au Kriegsspiel des fusions, acquisitions, etc. Et pour ce faire, il leur fallait devenir des sociétés par action comme les autres. Donc elles ont commencé à ouvrir leur capital, à avoir des actionnaires privés comme n'importe quelles autres entreprises, et de plus en plus à importer toutes les logiques du monde privé, de telle sorte que la différence entre le monde mutualiste et le monde privé sous actionnariat est devenue évanescente. Elle est maintenant des plus ténues. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, des entreprises comme Banque Populaire ou la Caisse d'Épargne, qui étaient quand même des fleurons du mouvement mutualiste, sont devenues ce qu'elles sont devenues, c'est-à-dire des entreprises pitoyables qui finissent effectivement dans des déconfitures qui seraient risibles si elles n'avaient pas causé du tort à un si grand nombre de personnes.
Quand je lis en première page que sur telle ou telle plage il y a eu un naufrage et que des gens sont morts noyés, c'est dommage parce qu'ils n'avaient pas d'engin de sauvetage. Je suis triste un court instant, mais ça dure pas longtemps car j'ai mis de l'argent dans les actions d'une société, mon présage, qui fait des bouées de sauvetage. Je suis actionnaire et j'aime beaucoup l'argent. Si je sais bien pleurer par devant, je sais aussi rigoler par derrière. J'ai parfois un peu honte d'aimer autant l'argent, mais quand je fais mes comptes, je suis très 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 content. Quand j'entends à la radio qu'un grand marchand d'auto met des gens sur le carreau pour fabriquer très loin, pas cher ses autos, là où le boulot ne vaut pas un euro, je suis triste un court instant, mais ça dure pas longtemps car j'ai mis de l'argent dans les actions de la société en question, et pour moi ça fait des ronds. Je suis actionnaire et j'aime beaucoup l'argent. Si je sais bien pleurer par devant, je sais aussi rigoler par derrière. J'ai parfois un peu honte d'aimer autant l'argent, mais quand je fais mes comptes, je suis très 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 content.
Comme je suis fonctionnaire une fois par an, on a une prime.
Claude, actionnaire de Natixis.
Et comme j'étais en surendettement, j'ai vu avec mon conseiller qu'est-ce que je pouvais faire de cet argent-là. Et puis il m'a dit, ça tombe bien, voilà, je vais vous proposer des actions Natixis. Alors, ça me fait un peu peur, parce que quand on est en surendettement, c'est vrai que c'est des choses, c'est des risques qu'on peut pas trop prendre, enfin, que j'avais pas envie de prendre. Mais c'est vrai qu'il insistait, il était très, sincèrement très, très, très insistant. Et bon, j'ai dit, oui, bon, je veux bien une part. Il m'a dit, non, une part, ça vaut pas le coup de réserver pour une seule part. Il faut en prendre plusieurs. Et il insistait. Moi, je me sentais un peu en danger, mais il me laissait pas vraiment le choix. Donc, on est parti sur plusieurs actions. Je crois trois parts. Je pense qu'il m'avait conseillé de prendre trois parts. Et c'est très vite dégringolé.
Vous en aviez pour combien d'argent?
La moitié de ma prime, donc je crois que la prime était de 1 200 €, je crois que j'en ai eu, voilà, pour la moitié. Parce qu'il a insisté, vraiment, en me disant que pour moi et dans ma situation, c'était ce qu'il fallait faire. Il m'a dit, vous vous rendez compte, si vous récupérez, alors il est évident que quand on a pas d'argent, qu'on nous laisse miroiter, que dans quelques mois, j'en aurai le double, voire voilà, donc c'est forcément intéressant. Et moi, c'était pas mon, j'étais pas partie du tout. J'étais réellement partie pour qu'il me conseille, pour que cet argent puisse faire des bébés quelque part, mais pas ça, quoi. Sincèrement, je lui ai fait confiance.
Et donc, quand vous avez observé que ça dégringolait, ces actions de Natixis, vous êtes retourné le voir, vous êtes allé vous plaindre?
Je suis retourné le voir. Et puis il me dit, généralement, quand ça descend comme ça, ça ne peut que remonter. Donc il faut attendre. Je lui dis, mais je ne sais pas si c'est intéressant. Là, pour le moment, ça dégringole. Donc moi, j'ai pas d'argent, surtout pas d'argent à perdre. Moi, je suis toute seule avec les trois enfants. Il est bien évident que j'aurais préféré mettre l'argent autre part que sur quelque chose qui était en train de dégringoler. Et je trouve que c'est très malhonnête parce que je suis en surendettement jusqu'en 2011, donc c'est pas honnête, quoi. J'ai eu l'impression de m'être fait avoir, hein, vraiment. Il a vraiment profité de mon ignorance d'un premier temps, parce que c'est vrai que moi je suis éducatrice, je travaille pas à la Banque Populaire, je connais pas. Il a profité de mon ignorance et je crois que vraiment j'ai été abusée.
Et donc aujourd'hui, sur la somme que vous aviez investie, vous savez combien il vous reste ?
En action, je crois, la dernière fois que j'ai vu, 24 euros.
Ah oui, sur les à peu près 500 euros ?
Oui, voilà, 24 euros. Donc j'espère, oui, récupérer au moins ce que j'ai investi.
Eh oui, on espère. Pigeons, 2 800 000 pigeons dans l'affaire Natixis. Encore une fois, je le rappelle, c'est pas la seule affaire. Souvenez-vous de Rotunnel, et il y a d'autres affaires comme ça. Alors, quels sont les recours pour ces pigeons? Ben, ils n'ont pas beaucoup de recours, les pigeons. C'est le risque. Ça, vous savez, hein, c'est le risque. Madame Parizeau nous l'a dit, il faut savoir prendre des risques dans l'existence. Mais quand même, les actionnaires spoliés se réunissent autour d'une association, la DAM, ADAM, Association de Défense des Actionnaires Minoritaires, qui est présidée par Colette Neuville.
Une des choses qui me paraît le plus grave dans le scandale Natixis, c'est le fait d'avoir utilisé des réseaux dont le nom inspire confiance, une clientèle qui fait confiance à les gens qui mettent leur argent à la caisse d'épargne. C'est des gens qui ne cherchent pas de plus-value, qui ne cherchent pas de spéculation, mais qui cherchent avant tout à conserver le capital déposé pour pouvoir le retrouver le jour où ils en auront besoin, avec des petits intérêts, mais tant pis, c'est pas ça qu'ils cherchent. Ce qu'ils cherchent avant tout, c'est la sécurité. Donc on a utilisé ce réseau pour aller placer auprès de ces gens en leur disant « mais sortez votre argent des caisses d'épargne, sortez votre argent des plans d'épargne, ça vous rapporte rien, mettez-le sur ce titre, vous allez voir votre capital augmenter rapidement ». Bon. Et les gens les ont cru, c'est ça le problème. C'est que finalement le discours était tellement bien fait, tellement bien formaté, aussi bien aux caisses d'épargne qu'aux banques populaires, qu'ils ont quand même réussi à séduire 2 800 000 personnes. Je trouve c'est le plus gros scandale financier de... Je ne connais pas de société qui ait réuni plus de 2 800 000 actionnaires. Actuellement, on a 1 000 000 de dossiers constitués, complets. On a eu beaucoup plus de gens qui nous ont contactés, peut-être plusieurs milliers. Mais le problème de Natixis, c'est que beaucoup d'actionnaires n'ont été sollicités que pour quelques dizaines de titres. Et nous-mêmes, nous leur disons, si vous n'avez que quelques dizaines de titres, ça ne vaut même pas les frais de constitution du dossier. Donc ça aussi, ça fait partie du scandale. Hein. C'est d'avoir émietté comme ça les actions par quelques dizaines ou quelques centaines par épargnant, de manière à faire en sorte que finalement, si quelque chose ne va pas, ils n'ont pas intérêt à engager un recours. Ça fait aussi partie d'une espèce de préméditation. Si on avait été placer les titres auprès de 3 ou 4 gros investisseurs institutionnels français ou étrangers, on savait très bien que le risque de recours était beaucoup plus important. Ces gens-là ne se seraient pas laissés faire aussi facilement. Moi, j'ai à plusieurs reprises employé l'expression « massacre des innocents » parce que je trouve que ça s'applique bien à cette affaire. On est allé chercher des innocents et on les a massacrés. Donc, de mon point de vue, ça ne peut pas rester sans suite. Donc, c'est à ça que je m'attache depuis maintenant un peu plus d'un an, avec beaucoup de difficultés, puisqu'au bout d'un an, on n'a toujours pas obtenu une nomination de juge d'instruction. Et que je vois avec beaucoup d'inquiétude le projet de suppression de juge d'instruction. Qui va instruire cette affaire ? Peut-on vraiment compter sur le parquet pour instruire cette affaire dont on sait que le gouvernement voudrait bien qu'on n'entende plus parler ? La tromperie, elle vient du fait que les risques qui étaient pris par la société et sa filiale américaine principalement n'ont pas été estimés à leur juste valeur par les dirigeants qui faisaient des communiqués encore très rassurants longtemps après que les risques étaient devenus apparents. Quel était leur degré de connaissance des risques qui étaient pris aux États-Unis ? Et s'il apparaît, comme apparemment ils le disent, il n'en avait pas vraiment connaissance, ça pose vraiment un problème de gouvernance dans une banque. Enfin, une banque qui prend des risques à cette hauteur-là et dont les dirigeants ne seraient pas conscients des risques, ça paraît aussi monstrueux. Hein.
Bienvenue chez Natixis. Merci de bien vouloir patienter. Nous allons donner suite à votre appel.
Welcome to Natixis. We're trying to connect you. Please hold the line.
Adliman.
Oui, bonjour. Je suis Charlotte Perry de France Inter.
Oui, bonjour.
On s'est parlé hier.
Oui, effectivement. Donc, concernant votre demande, en fait, on ne va pas pouvoir y répondre dans la mesure où on a une procédure en cours. Et donc on est dans l'impossibilité de s'exprimer sur le sujet. Par contre, comme vous me parliez de l'époque de la commercialisation, en 2006, les subprimes n'étaient pas une catégorie d'actifs sujet à problématique. Sur le reste, on peut vraiment pas s'exprimer et ça...
Parce que même en dehors des subprimes, on peut pas vendre quelque chose comme étant extrêmement sûr si on sait qu'il y a quand même des risques.
Bah, vous savez pas, justement.
Pas du tout.
Ah ben non.
Mais c'est qu'il y a un problème au niveau de la direction. Si...
Mais non, parce qu'à l'époque, les subprimes, ce n'était pas un problème. Hein. C'est une catégorie d'actifs comme il y en a d'autres et qui fonctionnait très bien.
Oui, mais normalement, le client doit être au courant des risques. Et là, il ne l'était pas.
Bah, ça, d'abord, moi, je n'ai pas assisté aux entretiens, j'en sais rien. En plus, on dit toujours que les conseillers clientèles n'en ont pas parlé. Je pense que les gens n'avaient pas non plus, les gens se battaient pour avoir des titres. Et je ne suis pas sûre non plus qu'ils avaient envie qu'on leur passe 3 heures à leur expliquer que... Je pense que la plupart des gens étaient parfaitement au courant des risques. Mais ce que je vous explique, c'est que ça n'était pas un risque, le subprime. C'est une catégorie d'actifs qui ne posait pas de problème. Donc pourquoi il y aurait eu une inquiétude? Là, je vous explique le contexte de l'époque, mais je ne peux pas m'exprimer sur ce sujet dans la mesure où on a une procédure en cours. Hein. Voilà.
Voilà. Voilà, c'est précis, ça a le mérite d'être précis, on respecte les journalistes, on respecte, comme on respecte d'ailleurs, les actionnaires. Le combat continue.
Donc vous travaillez à la Caisse d'Épargne?
Oui, tout à fait.
Et en 2006, vous exerciez quelle fonction?
Conseiller financier.
Et vous?
Conseiller financier également.
Et vous?
Conseiller commercial.
Donc vous étiez là quand les actions Natixis ont été commercialisées?
Commercialisées, oui, tout à fait.
Et comment ça se passait alors?
En fait, on avait donc eu plusieurs privatisations, donc, et on a ressorti, moi, nos dirigeants ont ressorti les listes des gens qui ont acheté toutes les actions auparavant. Et du coup, on a travaillé sur ces listings, puisque c'était des gens appétants, donc il fallait les contacter en premier. Et une fois que cette liste était apurée, il a fallu taper un peu ce qu'on appelle dans le dur, donc équiper tous les clients qui venaient à l'agence. Tout le monde devait ressortir avec son lot d'actions Natixis et de préférence des petites souscriptions, de façon à ce qu'il y ait de plus en plus de petits porteurs. Donc oui, le livret A servait aussi à... On a vidé aussi des comptes de nos petits épargnants. Et puis bon, vous savez, les conseillers financiers, on leur demande de vendre, ils vendent. Hein. Aujourd'hui, un conseiller financier, c'est un vendeur, c'est plus un conseiller financier aujourd'hui. On vend aux clients ce que la banque a besoin. On ne conseille pas le client en fonction de ses besoins, c'est le contraire. La banque a besoin de ça, il faut vendre ça.
Alors, il y a eu effectivement une récompense financière à l'issue de cette opération qui a été octroyée par la hiérarchie commerciale en fonction de l'investissement de chacun. Hein, vous savez qu'en caisse d'épargne, nous appelions les rouges et les banques populaires, donc les bleus. Donc l'objectif était bien évidemment de se montrer plus performant que nos collègues des banques populaires et de réussir à placer plus d'actions Natixis que ce groupe. C'est les notions de benchmark.
Benchmark, c'est...
Le benchmark, c'est un comparatif entre agences. Tous les mois, les agences sont comparées les unes aux autres en fonction de leurs résultats. Donc ça permet de se situer, en fait. Ça permet aussi de verser une rémunération, puisque ceux qui sont bien classés au benchmark, ben, forcément, ont une meilleure rémunération. Les derniers n'ont rien, ce sont les mauvais élèves. Donc le client en pâtit, puisque forcément, il se fait refourguer n'importe quoi. Vu ce qui s'est passé, c'est une escroquerie. Hein. Je dirais que les gens qui étaient appétents, qui ont fait de la demande, qui ont demandé à avoir des actions Natixis, C'est leur problème, hein. Ils ont voulu gagner de l'argent, tant pis pour eux. Pour les gens, par contre, à qui on a vidé les livrets, oui, c'était une escroquerie. C'est du vol.
On a beaucoup de collègues, en fait, qui ont eux-mêmes pris des actions Natixis, pensant que c'était bien pour eux et donc bien pour les clients. Après, le problème, je pense que c'est que depuis le début de l'année, on avait fait les privatisations d'EDF, de GDF, d'Aéroports de Paris. Et tout le monde a cru que une banque d'investissement, une banque de gros, ça allait fonctionner pareil que l'énergie ou un aéroport, quoi. Et pas du tout, quoi. Hein. Et puis on était loin de savoir ce qui se passait avec la titrisation, les subprimes et ainsi de suite, quoi.
Mais bon, on sait qu'il n'y a eu aucune conséquence de la crise financière, qu'aujourd'hui les banques sont reparties à faire des spéculations sur du crédit à la consommation aux États-Unis, sur les assurances-vie chez nous. Donc on n'a tiré aucune conséquence de ce qui s'était passé et c'est reparti de plus belle.
C'était donc l'année dernière, en mars 2010. Aujourd'hui, un an plus tard, nous allons donc rappeler Colette Neuville, la présidente de l'Association de défense des actionnaires minoritaires, pour savoir si le dossier a avancé.
Oui ?
Alors, Colette Neuville, vous avez déposé plainte contre Natixis en mai 2010 pour diffuser...
Contre X. Hein.
Contre X.
Oui, c'est au juge de déterminer les personnes qu'il jugera responsables des infractions qu'il relèvera.
Donc, vous avez déposé plainte pour diffusion d'informations trompeuses et présentation de comptes inexacts ?
Oui, distribution de dividendes fictifs, voilà. Alors, la plainte, il y a eu un progrès important qui s'est produit au cours de l'année 2010, c'est la nomination d'un juge d'instruction au mois de septembre, le juge Grouman. Donc maintenant, l'instruction est en cours et ce que nous attendons maintenant, c'est la mise en examen des personnes que le juge estimera devoir mettre dans sa procédure.
Donc ce serait possiblement une mise en examen des anciens dirigeants de la Banque Populaire et de la
Caisse d'Épargne. On peut pas. C'est pas à nous de déterminer les personnes que le juge mettra en examen. C'est à lui de voir en fonction des éléments de la plainte qui peut être responsable. Enfin, c'est vrai qu'on peut penser aux anciens dirigeants.
Donc pour les petits actionnaires de Natixis, pour le moment, il n'y a pas...
Ah bah, ils mettent leur espoir dans la justice. J'espère que la justice saura répondre à leur attente parce qu'il s'agit quand même, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, d'un des plus gros scandales financiers de l'histoire financière. Hein. C'est quand même plusieurs milliards qui ont été, escroqués sur la base d'informations trompeuses à plusieurs centaines de milliers d'épargnants. Donc il s'agit d'un énorme scandale. Le cours de l'action est toujours aux environs de 4 euros. Il oscille entre 4 euros et 4,5 euros. Pour des gens qui ont payé leurs actions entre 19 et 20 euros, la perte demeure considérable. Et d'autre part, on voit bien dans cette affaire-là qu'il faudrait mettre en place des recours collectifs de manière à permettre à tous ceux qui ont été lésés d'être dans la procédure. Ça paraît totalement irréaliste et même surréaliste de voir qu'il y a à peu près 1000 personnes dans la procédure, ce qui est déjà énorme par rapport aux centaines de milliers qui ont été lésés par cette affaire-là. Hein, on ne dira jamais assez que tant qu'il n'y aura pas de recours collectif en France, toutes ces introductions en bourse à l'adresse de l'actionnariat populaire sont des escroqueries potentielles. Il y a des tas de pays, le Canada, les Pays-Bas et bien d'autres, qui ont mis en place des recours collectifs qui simplement rendent effective la responsabilité des dirigeants et de tous ceux qui informent les actionnaires. Et c'est quand même la moindre des choses que ceux qui font appel à l'épargne soient responsables devant ceux dont ils utilisent les fonds. Voilà.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
C'était une nouvelle diffusion du reportage de Charlotte Perry, dont nous retrouverons la deuxième partie demain. Merci à Eric, Rossana, Henri et Claude, à Guillaume Maugin et Frédéric Lordon. Merci également à Colette Neuville de l'Association de défense des actionnaires minoritaires, ainsi qu'aux syndicalistes de Sud Caisse d'Épargne. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, David Federman et Gilles Gaillard, réalisation Cayenne Nguyen, assisté d'Agnès Lebot. Marina Touillez attend vos messages sur le répondeur au 01 56 40 37. 37. Écoutez France Inter, il est 16h. Le Flash, Antoine Balandra.
Une nuit plutôt agitée dans les casinos du groupe Partouche des Bouches-du-Rhône. Deux d'entre eux ont été attaqués. À Aix-en-Provence, six hommes cagoulés et armés de Kalachnikov ont réussi à emporter 100 000 euros de butin. Deux heures plus tard, nouvelle attaque, cette fois à la Ciotat. Reste à savoir s'il s'agit du même groupe de malfaiteurs, Olivier Martoc.
Vu le timing, il est tout à fait possible que ce soit la même équipe qui ait accompli les deux braquages. Entre Aix et la Ciotat par l'autoroute, il faut moins d'une demi-heure. Et puis il y a ce témoin qui affirme avoir entendu un des membres du commando aixois dire « il n'y en a pas assez » en parlant des 100 000 euros, le butin du casino d'Aix. Mais le mode opératoire n'est pas exactement le même. À Aix, plusieurs dizaines de témoins, les joueurs encore nombreux à 2h du matin. Quatre hommes masqués et cagoulés armés de Kalachnikov qui pénètrent dans la salle, se ruent sur les caisses et se font remettre l'argent qu'elles contiennent, ce qui fait au moins 6 malfaiteurs avec les chauffeurs restés au volant des deux voitures stationnées devant l'établissement durant le hold-up. 2 heures plus tard, c'est un des vigiles du casino de la Ciotat qui, sous la menace de 3 hommes en armes, les conduit au coffre. Là, il n'y a pratiquement pas de témoins. Le casino était en train de fermer. D'où cette idée des enquêteurs. Le coup aurait pu être commis par une partie seulement de la première équipe. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
Il est soupçonné d'avoir violé une fillette de 5 ans à Toulouse. Un homme de 40 ans a été mis en examen ce matin pour enlèvement, séquestration et viol sur mineur. L'homme serait un récidiviste. Il avait déjà été condamné à 2 reprises pour des faits similaires. Il faisait l'objet d'un suivi. Il a été écroué. Une marche silencieuse ce soir à Chelles en mémoire des 3 personnes tuées samedi par un chauffard ivre qui roulait sans permis. La marche devrait partir vers 19h en l'honneur de la fillette de sa mère et de son oncle tués dans l'accident. Le conducteur de 44 24 ans, était toujours en garde à vue ce matin. Il devait être transféré dans l'après-midi. Il risque 20 ans de prison. Une fusillade ce matin au ministère de la Défense afghan à Kaboul. Un soldat a ouvert le feu, tuant deux autres soldats de l'armée afghane. Attentat immédiatement revendiqué par les talibans. Ils ont précisé avoir voulu toucher le ministre de la Défense français, Gérard Longuet. Impossible, répond l'état-major français, car le ministre était situé à ce moment-là sur la base de Bagram. En Syrie, le mouvement de contestation du régime s'amplifie. Plusieurs nouvelles manifestations ont eu lieu aujourd'hui. 11 personnes ont été tuées, notamment dans le centre du pays. Paris demande au président syrien Bachar el-Assad de mettre en œuvre les réformes promises. En Hongrie, cette fois, c'est fait. Malgré les manifestations, malgré le boycott de l'opposition, le Parlement a adopté la nouvelle constitution ultra-conservatrice, un texte très décrit. La nouvelle constitution s'appuie sur un projet du Premier ministre ultra-conservateur Viktor Orban. L'incendie dans un immeuble du 20e arrondissement de Paris le 14 avril dernier pourrait être d'origine criminelle. Des traces d'hydrocarbures ont été décelées au rez-de-chaussée devant la loge de la concierge. Il pourrait donc s'agir d'un règlement de compte. Le feu a fait 5 morts et 6 blessés graves. Et puis nos centrales sont sur et régulièrement contrôlées. C'est ce que disait ce matin dans le Figaro le PDG d'EDF, Henri Proglio. Et pourtant le débat fait toujours rage en Alsace. Du côté de la centrale de Fessenheim, la plus vieille de France. Plusieurs militants écologistes ont entamé cet après-midi à Colmar une grève de la faim. Ils demandent la fermeture immédiate des installations de Fessenheim.
Jeudi, France Inter est à Toulon.
Un an avant l'élection présidentielle,
une fois par mois,
les émissions de France Inter s'installent dans 12 villes de France.
Le Tour de France de France Inter.
12 mois.
12 villes.
12 éclairages.
Jeudi,
venez nous retrouver toute la journée
en direct de l'Opéra de Toulon. Tous les jours.
Vous avez un corps de
à partir de 11h.
Très joli garçon.
Le fou du roi.
Stéphane Bern.
Vous savez que là-bas, ils ont votre photo comme exemple dans le vestiaire.
Pour assister au prochain fou du roi, en direct du studio 106 avec Antoine Duléry, Charlotte de Turckheim et Katia Dénard, rendez-vous demain lundi dès 10h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Ça ne me regarde pas.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le fou du roi.
Oui.
Tous les jours sur France Inter. À partir de 11h, France Inter. France Inter.
La différence.
16h04 sur Inter, l'heure de retrouver Carrefour de l'Odéon. Avec vous, Frédéric L'Odéon. Bonjour.
Bonjour Antoine. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. J'ai parlé récemment, c'était vendredi, du Chevalier de Saint-Georges, parce qu'il y a un festival à la Guadeloupe qui a débuté tout récemment, Basse-Terre notamment, et on peut entendre ce merveilleux violoniste, ce combattant à l'épée tout à fait imbattable, ce nageur émérite, très beau garçon, Don Juan noir, et en plus, rival de Mozart quand il est arrivé à Paris, on peut l'entendre en ce moment chez nos amis qui nous écoutent de la Guadeloupe, on le sait, et puis la Martinique n'est pas loin, donc un petit coup d'avion ou de bateau pour aller assister à ce beau festival, c'est une bonne idée. Et quant à nous, on peut célébrer aussi l'Outre-mer au jardin d'acclimatation de Paris en ce moment. Et jusqu'au 8 mai, l'Outre-mer est à l'honneur avec la musique, bien sûr, mais aussi la gastronomie, la danse, le chant, la joie de vivre, quoi. Et pour illustrer ceci, voici justement une pièce. C'est un concerto en sol majeur du Chevalier de Saint-Georges, Joseph de Bologne, de son nom principal. Le Chevalier de Saint-Georges, parce que son père avait les moyens de lui donner une particule. Et je vous propose d'entendre la très belle interprétation de Jean-Jacques Kantoroff pour ce rondo. Thank you. Rondo d'un concerto en sol de Joseph de Bologne, chevalier de Saint-Georges, interprété par Jean-Jacques Kantoroff en soliste avec l'orchestre Bernard Thomas, dirigé par lui-même. Une nouveauté maintenant chez ECM, un disque